Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Breaking Bad.
Mais comme il n'y a pas que des séries dans la vie, je vais commencer par vous dire deux mots de cinéma. Grâce à notre sponsor, First Man, film qui est sorti le 17 octobre dernier, à l'occasion duquel a été développée une série inédite de podcast, 3h56, Le premier homme sur la Lune. Deux mots, ou plutôt trois noms. Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune et dont First Man raconte l'histoire poignante. Damien Chazelle, ça c'est l'extraordinaire réalisateur du film, à qui l'on doit notamment La La Land, le phénomène ciné de 2017. Et puis Ryan Gosling, dont le nom se suffit à lui tout seul. Autant de raisons donc d'aller voir First Man en salle depuis le 17 octobre. Comment l'image d'un type à moitié ahuri en slip blanc en plein désert du Nouveau-Mexique peut-elle être devenue iconique ? Un minable prof de chimie d'Albuquerque, passé à côté du succès, de la fortune, de la belle vie, est diagnostiqué avec un cancer des poumons en phase terminale. Pour laisser un pécule à sa famille après sa mort, il s'associe à un ancien étudiant, Jesse, interprété par Ron Paul, devenu vendeur de drogue, et se met à fabriquer de la méthamphétamine. Sauf que le cristal ainsi obtenu est tellement parfait qu'il gagne beaucoup d'argent et se prend au jeu. Il va devenir petit à petit, lui-même, un parrain du trafic de drogue, sous le nom de Heisenberg. Il va diluer un gangster dans de l'acide, laisser la petite amie toxico de Jesse étouffée dans son vomi, s'opposera et fera exploser le visage de Gus, un autre roi de la drogue, pour qui il travaillera un moment. Il va à son tour devenir tout puissant, commandera l'assassinat d'hommes en prison d'un simple claquement de doigts, et tout cela en prétextant qu'il le fait pour sa famille. Pour prendre un parallèle, c'est comme si Mr. Chips, le prof du film Goodbye Mr. Chips, était devenu Scarface. Walter White, à savoir Heisenberg, à savoir c'est Bryan Cranston. Sa femme Skyler est interprétée par Anna Gunn. Son fils Walter, par R.G. Might. Pour ce rôle, cette descente aux enfers et dans l'enfer personnel de Walter, Bryan Cranston a d'ailleurs obtenu 3 Emmy Awards à la suite. La série en a obtenu 16 en tout, avec 58 nominations. Breaking Bad, un espèce de mélange entre le thriller, une comédie noire, un néo-western et un film des années 70. Dans les 15 premières minutes du premier épisode de Breaking Bad, Walter White, prof de chimie pathétique et mari pitoyable, apprend qu'il est condamné et se met à fabriquer de la méthamphétamine, du Blue Sky, auprès de Jesse Pinkman, dans un vieux camping-car au milieu du désert, pour gagner de l'argent avant sa mort prochaine. Très vite, il sera confronté à des dealers comme Carzi et Tuco. Ils vont même en faire disparaître deux en les diluant à l'acide dans une baignoire. C'est le début d'une longue descente aux enfers pour Walt. Et quand on a pu le rencontrer en personne en 2009, alors que la série en était encore à sa saison 2 et n'intéressait pas grand monde, à part nous, on lui a demandé qui il était. Enfin, on a demandé à Bryan Cranston, au Festival de télévision de Monte Carlo, pour être plus précis, qui était Walter White.
I knew this man.
Je l'ai vu comme si je le connaissais. Il est déprimé parce qu'il a raté des opportunités dans sa vie et tout le monde peut se reconnaître là-dedans. On a tous des chances qu'on a laissé passer ou qu'on a raté par peur et c'est ce qui lui est arrivé. Il a eu peur. Et quand on souffre de dépression à cause d'opportunités manquées, soit on devient plein de rage, on en veut au monde entier, on blâme tout le monde pour nos fautes, soit on disparaît, on se renferme sur soi-même et on devient invisible aux yeux du monde et de soi-même. Walter White est l'incarnation de cet état. Il a tout. Une moustache quelconque, des lunettes qui semblent lui servir à se cacher. Tous ceux qui portent des lunettes ne se cachent pas.
Not everyone with glasses is hiding. Let me make that clear. For him, that's what it was. And he had a hairstyle that he didn't. That
always. Mais c'était le cas pour lui.
Like needs to be trimmed. He didn't care.
Il avait une coupe de cheveux qu'il n'entretenait pas. Il avait pris un peu de poids. Il se laissait vivre sans faire attention. Et puis on lui annonce ce cancer du poumon, qui paradoxalement le ramène à la vie. Et le force à prendre des décisions qu'il n'avait jamais dû prendre auparavant.
And then he gets this terminal lung cancer that ironically makes him come alive. It forces him to make decisions that he hasn't had to make.
Et pour la première fois en 25 ans, de l'adrénaline coule dans ses veines et il se sent comme un homme. Il a cette curieuse impression qu'il n'échangerait pas sa place avec quelqu'un d'autre. Si on lui donnait le choix, il préférerait deux années excitantes plutôt que 20 années plates et sans saveur.
He would rather now have a year and a half to 2 years of an exciting life than the prospect of 20 years of dull.
Chaque épisode de la saison 2 commence avec une image dont on ne saisit pas le sens, mais on comprend quel est le résultat d'un accident d'avion. Tuco se fait tuer par un agent de la section antidrogue, Hank, qui s'avère être le beau-frère de Walter. Ensuite, Hank sera le personnage principal d'un épisode, le 7e, Poisson Lune, où il enquête à El Paso, découvre la tête d'un indique sur une tortue et échappe de peu à l'explosion du commissariat de ses collègues. Gustavo Fringe, dit Gus, est le nouveau distributeur de la drogue que Walt et Jesse fabriquent, sa couverture étant un fast-food de poulet frit Los Polos Hermanos. C'est un avocat véreux, Saul Goodman, qui met Walter en contact avec Gus. Gus va leur offrir un laboratoire ultra perfectionné où ils peuvent fabriquer leur drogue en très grande quantité. Walter prend le pseudo de Heisenberg et devient petit à petit un caïd de la drogue. Jane, la copine de Jesse, toxicomane, fait chanter Walter, mais il va la laisser agoniser dans son vomi. Fou de douleur, le père de la jeune fille, contrôleur aérien, provoque un crash d'avion. Et dans cette même saison 2, Skyler découvre la duplicité de Walt et le quitte. Le cancer de ce dernier est d'ailleurs en rémission. Pendant la saison 3 de Breaking Bad, Walt va tout révéler à sa femme Skyler qui va participer au blanchiment de ses bénéfices. Et pour cela, elle achète et dirige un commerce de lavage de voitures. Jesse va éliminer un autre chimiste qui aurait remplacé Walt au laboratoire. Et Hank, le beau-frère, se fait tirer dessus par les deux frères, les Tuco, des dealers qui souhaitent tuer Heisenberg. Dans un épisode devenu mythique et tourné dans le but de faire des économies, une mouche dans les laboratoires entraîne Walt et Jesse dans un huis clos. Pour la saison 4, il y a une nouvelle guerre avec un nouveau cartel de la drogue. Jesse les rejoint au Mexique, mais c'est un leurre. Gustavo profite d'une réconciliation pour empoisonner tous ses concurrents. Walt parvient finalement à éliminer Gus. Il a tellement d'argent qu'il est devenu impossible de l'écouler. Bryan Cranston, devant quelques journalistes au festival de télévision de Monte Carlo, résumait très bien la situation.
He's a scientist. He's a chemist. Everything in science makes sense.
Il vient de la science. Il est chimiste, après tout. Un monde où tout est logique, mesuré, où tout a du sens. Il se retrouve dans cet univers où rien n'a de sens. C'est un monde où ce sont les voleurs, les tueurs et les drogués qui mènent la danse. Et le pauvre essaie de trouver du sens dans tout cela, mais il ne peut pas. Rien n'a de sens et ça le rend fou. C'est vraiment très intéressant de se plonger dans ce monde qui pousse à se poser cette question. Qu'est-ce qui a le plus de valeur ? Quelques années d'excitation ou une vie fade ?
A life undiscovered and dull or a life that's short and exciting.
Nous arrivons à la saison 5. Walter White est devenu un vrai caïd, totalement mégalo. Il prépare de la méthamphétamine en utilisant des maisons en pleine désinfection. Lui et Jesse sont dorénavant associés à Mike, l'ancien homme de main de Gus. Ils vont aussi s'associer à Lydia pour écouler leur drogue. Jesse va commencer à se poser beaucoup de questions. Il a vu un enfant innocent se faire abattre uniquement parce qu'il passait par là au moment où lui et sa bande dissimulaient de l'argent. Très en colère contre Jesse, Walt met un contrat sur sa tête, via Todd, son nouveau partenaire pour la fabrique de drogue, et son oncle Jack, des gros trafiquants qui sont aussi des néo-nazis. La dernière partie de la saison 5 voit Hank, qui a enfin découvert qui était Heisenberg, face à face avec Walter. Il va ensuite le traquer, tenter de convaincre Skyler de trahir son mari, mais est seulement parvenu à dresser Jesse contre son ancien ami. Walt va faire chanter Hank et sa femme avec une fausse confession, mais Hank tombera sous les balles de l'oncle Jack, qui oblige aussi Jesse à continuer de fabriquer de la drogue. face au fait que Walt Jr. le rejette totalement, Walt s'enfuit, lègue le reste de sa fortune à son fils, de telle façon qu'il n'en découvre pas la provenance, disculpe Skyler auprès de la police, lui donne les coordonnées où ils pourront retrouver le cadavre de Hank, lui affirme enfin qu'il a beaucoup aimé ce moment de sa vie où il était trafiquant parce qu'il se sentait vivant. Lors d'une dernière action d'éclat, il fait disparaître tous les trafiquants qui le menaçaient encore, comme l'oncle Jack, libère Jesse, empoisonne Lydia et s'écroule, mortellement blessé, au milieu du laboratoire. Il a 52 ans, le jour même, et cela faisait 2 ans jour pour jour qu'il avait commencé sa carrière de fabricant et de trafiquant de drogue et sa descente aux enfers.
Et côté coulisses, ça donne quoi ?
Après la descente aux enfers de Walt, je vais maintenant vous raconter la descente aux enfers d'une série télé qui a eu bien du mal à être créée. Vince Gilligan est très connu pour avoir passé 7 années sur les X-Files de Chris Carter. Il reconnaît que ce fut pour lui un apprentissage dans la narration d'une série et dans la production quotidienne d'une série. Il faisait partie de la Writer's Room, écrivait plus d'une 20aine d'épisodes, bref, il en réalisa même 2. L'idée lui vient d'un ami scénariste d'X-Files, Tom Schnotes, qui lui parle d'un mec qui cuisine de la méthamphétamine dans son camping-car. Il conçoit alors une série et la propose à plein de chaînes. Showtime dit non parce qu'ils avaient déjà Weeds en projet, une série sur une mère célibataire qui vend de la drogue pour subsister. Et c'est d'ailleurs exactement la même réaction qu'a eu Canal+ au départ, et la série a déboulé sur OCS et Arte ensuite. HBO a dit non, FX avait même signé en 2005 pour le pilote mais ne l'a pas retenu, car ils ont jugé avoir déjà trop de séries masculines comme The Shield et Son of Anarchy. Arrive alors AMC, qui n'avait aucune série originale à l'antenne et qui était en train de développer Mad Men. Elle finit par se lancer. Cette proposition avait l'avantage d'être innovante et surtout très contemporaine. Et avec Mad Men, la chaîne AMC, qui est l'acronyme de American Movie Classic, recevait à tour de bras des projets sur des séries historiques, sur la Motown ou des choses comme ça. Donc, faire une série décalée et contemporaine, c'était un peu leur moyen de faire passer le message qui n'était pas centré sur le classique de leur nom. Pour le rôle principal de Walter White, le professeur minable qui fabrique de la drogue en sous-vêtements, la chaîne pensait à Matthew Broderick ou à John Cusack. Bryan Cranston avait déjà été le père de Malcolm dans la comédie à succès Malcolm in the Middle. Vince Gilligan avait déjà travaillé avec Cranston dans un épisode de X-Files qu'il avait lui-même écrit. Il tenait le rôle d'un fou furieux antisémite, adepte des théories du complot, mourant à cause de radiation. Et c'est cet épisode qui a convaincu les gens d'AMC. Il me raconte ce qui l'a convaincu, lui. J'ai le script de Breaking Bad. On m'a expliqué que l'auteur avait travaillé sur The X-Files et qu'il me connaissait. Du coup, j'ai lu le scénario, d'une traite. Je me suis dit, waouh, cette histoire est unique. J'ai appelé mon agent, je lui ai dit que je voulais le rencontrer. Il a donc organisé une rencontre de 20 minutes avec Vince Gilligan, qui avait écrit le scénario. Et lorsqu'un texte est aussi bien écrit et construit, c'est d'autant plus facile pour les acteurs. On n'a plus besoin de travailler, parce qu'on est pris par l'histoire. C'est comme un bon livre. On imagine tous les décors, les costumes, et on vit l'histoire. Eh bien, c'est la même chose avec un bon scénario. En lisant le scénario de Breaking Bad, j'imaginais déjà tout sur le personnage. Sa démarche, son maintien, son style, son absence de style. On en a parlé avec Vince. Je lui ai dit, je pense qu'il devrait avoir de l'embonpoint, qu'il est déprimé et qu'il se fiche de ses cheveux. La série est tournée à Albuquerque. Initialement, elle était censée se dérouler en Californie. Mais il y avait des crédits d'impôt au niveau des taxes si on la tournait au Nouveau-Mexique. La série coûtait initialement un petit peu plus de 2 millions de dollars par épisode. Comme il est d'usage, aux États-Unis, le diffuseur, AMC, couvre 80% de ce budget, donc 1 750 000 dollars. Le reste est à la charge de Sony qui produit la série et qui recouvrira ses pertes en gardant les droits pour revendre la série à l'étranger, sur des plateformes comme Netflix, etc., etc. C'est un peu comme ça pour toutes les séries américaines. On appelle ça le financement déficitaire. Mais à cause de la grève des scénaristes, qui a commencé en novembre 2007 et qui durera 4 mois, plus de 60 séries sont stoppées net dans leur production. La première saison de Breaking Bad ne fera donc au final que 7 épisodes, et pas les 9 validés, ni les 13 initialement commandés. Et d'ailleurs, dans les épisodes initialement prévus pour cette première saison, mais qui n'ont donc pas été tournés, Jesse devait rendre l'âme. Mais la qualité d'interprétation d'Aaron Paul a convaincu Vince Gilligan de changer ses plans. Pour compenser, c'est le personnage de Hank qui devait mourir dès la fin de la première saison. Mais la grève a coupé court à tout cela et ces deux épisodes ne seront jamais finalisés, encore moins tournés. Hank n'a donc pas trouvé la mort tout de suite. Le bon côté de cette grève, c'est qu'elle a donné plus de temps à Vince Gilligan, car il était trop pris par les délais et ne parvenait pas à fournir de nouveaux scripts. Lui était occupé sur le tournage au Nouveau-Mexique et tous ses scénaristes étaient à Los Angeles. La saison 1 de Breaking Bad est lancée en janvier 2008. Elle fait une audience assez minable, 1 300 000 téléspectateurs en moyenne. Elle est passée sous les radars de tout le monde, alors qu'il suffisait de regarder les trois premiers épisodes pour déceler le délire de la série. Mais quelques mois plus tard, sur la scène des Emmy Awards, à la surprise de tous, y compris de l'acteur en personne, Kiefer Sutherland annonce qui remporte l'Emmy du meilleur acteur pour une série dramatique, et c'est Bryan Cranston. La série a trois autres nominations et Breaking Bad est propulsé sur le devant de la scène. Malgré cela, la saison 2 fait aussi une moyenne de 1 300 000 téléspectateurs et la 3, 1 520 000. Nous sommes en 2011. La saison 4 ne fait qu'une audience de 1 900 000 Américains et est en danger d'annulation. S'il y a une saison finale, elle ne fera que 6 ou 8 épisodes. De plus, à cette période, la chaîne AMC venait d'accepter un deal gigantesque dans le but de continuer Mad Men. 30 millions de dollars. Donc la chaîne essayait de faire des économies sur les autres programmes. Il y a même eu des rumeurs que d'autres diffuseurs pourraient reprendre et continuer la série. Mais les trois premières saisons sont disponibles intégralement sur une plateforme de streaming qui se lance, Netflix. Et oui, Sony a vendu les trois premières saisons à Netflix et la notoriété de la série augmente d'un seul coup. Pendant ce temps-là, la saison 4 atteint des sommets avec une audience de 2 580 000 spectateurs pour son premier épisode et la 5 a fait un bond dans les audiences. Elle commence avec un épisode qui fait 5 920 000 spectateurs et la moyenne pour la première partie de la saison 5 est de 3 900 000. Comme d'habitude, la saison commence par des plans incompréhensibles, mais que l'on saisit au fur et à mesure. Là, il s'agit d'une mitrailleuse dans le coffre de Walt. Sauf que, au moment où cela avait été écrit, Vince Gilligan et les scénaristes n'avaient absolument aucune idée de comment ils allaient l'inclure dans le final de la série. À un moment, ils ont même pensé que Walt allait s'en servir pour libérer Jesse de prison, voire même pour mitrailler le bus de la prison qui amenait Jesse. La toute dernière scène à être filmée de Breaking Bad était un flashback, avec Walt et Jesse en train de fabriquer de la drogue dans leur vieux camping-car, comme au début de la série. Cranston s'est rasé la barbe pour la scène et il est entièrement nu sur son tablier. Le soir, pendant la soirée de fin de tournage, toute l'équipe a décidé de se faire tatouer le logo BRBA, c'est ce que vous retrouvez dans le générique de la série. Quand la saison 5 reprend pour sa deuxième partie, le premier épisode réunit quelque 7 900 000 spectateurs. Les 30 secondes de publicité génèrent quelque 30 000 dollars de bénéfices. L'épisode final brise un record pour le câble basique, 10 300 000 téléspectateurs. Breaking Bad est devenu un phénomène. Jeffrey Katzenberg de DreamWorks a même proposé 75 millions de dollars pour que soit tourné après la série 3 épisodes supplémentaires, c'est-à-dire donc 25 millions pour chacun de ces nouveaux épisodes, histoire de faire un petit événement en vidéo à la demande. Ça ne s'est pas fait. Parce que en 2015, c'est en fait le lancement d'une série dérivée, Better Call Saul, centrée sur l'avocat véreux Saul Goodman, mais avant sa rencontre avec Walter White, à l'époque où il était encore Jimmy McGill. La série a remporté une pluie d'Emmy Awards. Meilleure série en 2013, à nouveau meilleure série, meilleur scénario et meilleur acteur pour Cranston, Hannigan et Aaron Paul en 2014. Meilleur acteur pour Aaron Paul en 2012 et 2010, pour Cranston en 2010, 2009, 2008. Bref, ils ont aussi reçu 2 Golden Globes en 2014, un pour Cranston et un pour la série. Ouf! À la fin de la série, une vente aux enchères fut organisée. Des centaines de props, à savoir des éléments de décor, furent ainsi mis en vente. Un fan acheta le slip blanc que Walter White porte dans le pilote pour 9 900 $. Le livre « Feuille d'herbe » qui permet à Hank de découvrir que Heisenberg n'est nul autre que Walter White, c'est lui vendu pour 65 000 $. Et des dizaines d'autres objets issus de la série, comme des sacs de méthylalamine, des tenues de cuisinier, le chapeau noir de Heisenberg et des tasses provenant du Polos Hermanos, sont dorénavant exposés au Smithsonian Museum, là où on peut voir la bannière étoilée, la première ampoule électrique de Thomas Edison et les souliers de Dorothy du magicien d'Oz. bien moins amusant. Des dealers ont été jugés pour le meurtre d'Eva Bourceau, une étudiante en art à Toulouse, et ont reconnu s'être inspirés du fameux épisode où Walter White et Jesse font dissoudre le corps de leur victime dans de l'acide. Après le succès de la série, la chaîne CBS a décidé finalement de donner un feu vert à une autre série que Vince Gilligan leur avait proposée en 2002, avant Breaking Bad. Battle Creek, une sorte d'arme fatale à sa sauce à lui, avec un duo entre policiers et agents du FBI. À l'époque, la chaîne n'était pas intéressée, mais finalement, elle produit la série en 2015 avec Vince Gilligan et David Shore, le producteur de Dr. House et maintenant de The Good Doctor. Bon, la série n'a duré que 13 épisodes, mais a été vendue dans près de 100 territoires. C'est vous dire l'impact de Breaking Bad. Voilà l'histoire de Breaking Bad, une des meilleures séries de ces dernières années, une série qui a failli ne jamais voir le jour, qui a fini jamais connaître le succès. Il fallait avoir l'œil pour déceler dès le début le caractère original et étonnamment subversif de l'histoire. Qui pouvait y croire? En tout cas en 2009, même pas Bryan Cranston.
And this show will never have millions and millions of viewers.
La série n'aura jamais des millions de téléspectateurs. Pourquoi? Parce que le sujet fait polémique. Parce que les gens sont refroidis par le sujet. Parce que la série est violente par moments, thématiquement et graphiquement. On parle de drogue, de mort, de cancer. On se marre pas.
Doing what he's doing, dealing with cancer. I mean, it's not a laugh.
Ah, un dernier détail avant de vous laisser. Si vous pensez utiliser la série pour cuisiner votre propre drogue, laissez tomber. Après quelques cas, les producteurs ont décidé de montrer les phases de fabrication dans le désordre, pour ne pas susciter d'envie chez certains spectateurs.